Je sais pas trop comment faire avec ce truc là.
Voilà. Voilà. Et vous pouvez ouvrir dans le livre des Actes. Actes des apôtres, en fait. C'est après les quatre évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà. Et juste après, il y a le livre des Actes. Comme disait notre ami avant, c'est le début d'une série de 5, si j'ai bien compris. Sur le livre des Actes, un cheminement
de 8.
Sur le livre des Actes, et on va entrer ce soir dans ce cheminement. Vous avez le déroulement de notre cheminement ce soir sur des petites feuilles. Vous avez dû recevoir. Par le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. C'est ce que ce texte dit là, et on va le lire ensemble. Mais avant de le lire, je pense que c'est une bonne chose de prier. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est bien qu'on lui demande d'ancrer cette parole en nous. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble dans ta parole et à l'écoute de ce que tu veux nous dire par ton esprit. Nous te demandons, Seigneur, que tu ancres en nous cette parole, que tu nous fasses vivre par elle et rends-nous vraiment attentifs et dans la joie de la recevoir et de vivre en elle. Amen. On va lire le texte, on lit juste les 8 premiers versets. Voici ce que dit Luc, l'auteur de ce texte. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et une version à la colombe. Alors peut-être qu'il y a certains mots qui ne seront pas exactement pareils chez vous. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont leur dit-il « Vous m'avez entendu parler ». Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc réunis demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus-Christ a souffert. Il est mort et 3 jours après, il est ressuscité. Il vit et règne pour toujours. Il est le roi du royaume dont Luc parle au verset 3. Ce royaume de Dieu, et celui qui croit en Jésus le roi devient citoyen de ce royaume dont nous parle Luc. Bon, tout ça, ça a été écrit, il y a 2000 ans. Et comment, 21 siècles après, je peux être sûr que ça tient toujours, ça? Je veux dire, en admettant que je sois bien disposé, déjà, première étape, comment est-ce que je peux être sûr du contenu de ce que je crois? Comment est-ce que je peux être sûr que ce n'est pas une illusion en plus dans le monde qui connaît déjà toutes sortes de constructions philosophiques et religieuses? Comment être sûr de ça? Et aussi, si tout ça c'est vrai, c'est vraiment super ce que je viens de dire. Être membre du royaume éternel de Dieu, vivre un jour dans sa présence pour toujours, sans souffrance, sans mort, sans mal. Ça c'est vraiment super. Mais comment c'est possible que nous, dans une autre époque de l'histoire, sur un autre morceau de la planète, on puisse aussi entrer dans la même espérance que les premiers auditeurs? Comment savoir si on a droit aussi à tout ça? Ça demande une certaine dose de confiance. Alors dans le métro en venant, et j'avais déjà remarqué ça au début de semaine, j'ai vu la pub pour Acadomia. Hugo est un crack aux échecs. Pourtant, son manque de confiance le met en échec en maths. Pour la classe. Pour la classe, le slogan. Alors ce qui compte, c'est la confiance, redonner confiance en soi pour les enfants, c'est tout à fait louable. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que cette confiance en soi, est-ce que ceux qui croient sont des gens qui ont particulièrement confiance en eux-mêmes? Est-ce que c'est ça la foi? Comment savoir si on a droit aussi à tout ça? Et comment savoir si une confiance en nous-mêmes suffit? Bon, la réponse, c'est bien sûr ce texte qui nous le donne. Je sais que le contenu de ma foi est vrai. Je sais que moi aussi, à l'autre bout du temps et de la terre, je suis concerné précisément parce que Jésus-Christ a dit un jour à des hommes précis, à un moment précis de l'histoire, par le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. On va déjà regarder les versets 1 à 3 plus précisément. On voit que Jésus fait de ces hommes des témoins passifs qu'il appelle, qu'il forme lui-même pour les amener au cœur du message. Il s'arrange là pour assurer dans leur cœur, le cœur du message. Dans ces 3 premiers versets, Luc nous parle de la période qui sépare la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa victoire sur le péché et sur la mort, à son ascension, c'est-à-dire l'attestation de cette victoire par Dieu. Quand Dieu ressuscite son Fils des morts, l'assoit à sa droite, Dieu le Père lui donne la domination sur toute chose et manifeste que cette victoire a été accomplie. Il y a plein d'endroits dans la Bible qui le disent. Alors Luc fait ici le lien, vous l'avez remarqué, avec son premier livre, c'est-à-dire l'Évangile de Luc. C'est à la fois logique qu'il le fasse et puis essentiel. Pourquoi Luc fait le lien entre ce livre-là et son évangile? D'abord, c'est logique. Son intention d'auteur, en tant qu'auteur inspiré par Dieu pour écrire ces lignes, Luc la précise au début de son évangile. Vous l'avez vu, je crois, il y a quelques temps. On va quand même le relire. Luc, au chapitre 1, au tout début, il s'adresse aussi à Théophile. C'était sans doute un chrétien qui lui a commandé de commanditer ça, comme un mécène peut-être, en tout cas un chrétien qui voulait être informé. Luc, donc c'est 2 livres avant, Luc est au début, tout au début, les 4 premiers versets. Voici ce qu'il dit. « Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit, de manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Théophile, le premier lecteur de Luc, a tout intérêt de lire avec attention ce que Luc lui écrit. Parce que ce travail est soigné. Les événements dont il parle, à la fois dans l'Évangile et dans le livre des Actes, on n'a aucune raison de penser que l'intention de Luc était différente dans le livre des Actes. Parce que ce qu'il récolte comme événements ont pour objet, je cite, « que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus ». La certitude, c'est ça l'intention de Luc, qu'on ait la certitude. C'est dans cette même intention de véracité et d'exactitude que Luc dit que le Seigneur s'est présenté, verset 3, aux apôtres qu'il avait choisis. Et on continue la phrase, c'est la fin du verset 2, ça, il a choisi ces gens. Et c'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, certitude. Il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Garde rapproché de Jésus, témoin oculaire de son ministère terrestre. Les apôtres sont ceux à qui Jésus manifeste non seulement sa victoire sur le mal et la mort,
démontré dans son corps de ressuscité, mais aussi le sens de son ministère, la signification de tout cela. Le contenu du message, c'est ce qui va constituer l'autorité des apôtres, ce qu'ils sont en train de recevoir pendant ces 40 jours. Ces notions de contenu du message, cette notion d'autorité des apôtres, nous conduisent à la deuxième raison pour laquelle Luc fait le lien entre son évangile et le livre des Actes. La première raison, c'est que c'était tout simplement logique, c'est dans la continuité. La deuxième raison pour cela, c'est que c'est aussi essentiel que Luc fasse le lien entre son évangile et le livre des Actes. Le contenu de l'évangile, c'est-à-dire, d'après les mots qu'il utilise, ce qu'il a fait et enseigné, est encore actuel. Mais il doit être maintenant considéré par les apôtres à la lumière de la résurrection. On devrait plutôt faire comme ça pour vous. À la lumière de la résurrection. En fait, c'est même tout l'Ancien Testament qui doit être compris à la lumière de la résurrection et de la croix. Les deux temps d'un seul et même moment. Le cœur du dispositif du salut de Dieu pour tous les hommes. Il s'est présenté à eux, verset 3, vivant après avoir souffert. C'est les deux moments, les deux temps d'un seul moment pour le temps de Dieu. Alors avant la croix, on se met comme ça, tout l'Ancien Testament se tendait en avant dans l'attente de l'accomplissement du salut par le Messie. Il y a bien plein de textes qui disent ça, entre autres 1 Pierre 1, 10 à 12, ils cherchaient, l'Esprit de Dieu leur montrait que le Christ devait souffrir, et ils cherchaient avec empressement. L'Ancien Testament était à l'ombre de la croix. Après la croix, tout l'Ancien Testament s'éclaire d'une lumière nouvelle, celle du salut accompli par Jésus. L'Ancien Testament doit désormais se comprendre à la lumière de la croix. Et la résurrection éclaire la croix et tout l'Ancien Testament d'une lumière glorieuse. Glorieuse. Jésus le ressuscité prouve non seulement qu'il est revenu de la mort à la vie, miracle, qu'on ne s'en lasse pas de le dire, miracle, mais aussi et surtout que puisqu'il est revenu de la mort à la vie, alors tout ce qu'il avait promis de donner à la croix, le pardon, quoi d'autre? La vie éternelle avec Dieu, quoi d'autre? Le salut éternel. Tout cela est vrai et c'est prouvé par la résurrection. Et tout ce qu'annonçait l'Ancien Testament sur lui avant la croix s'est accompli. C'est à la lumière de la résurrection et de la croix qu'on peut dire cela en toute assurance. On va lire la deuxième partie du verset 3. Jésus leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors, Luc ne précise pas le détail de ce que Jésus, le roi du royaume, enseigne aux apôtres. Mais il a laissé comme une, on va dire, une note en haut de page. Et c'est le verset 1, la note en haut de page, qui dit en substance, si vous voulez le contenu de ce qu'il leur a dit pendant 40 jours, retournez à mon évangile. Alors qu'on peut le faire pendant quelques minutes. L'épisode le plus évident qui nous montre cette illumination glorieuse de la mission de Jésus par la croix et la résurrection, par ses souffrances, sa mort et le retour à la vie, c'est bien sûr celui de la rencontre avec les disciples d'Emmaüs. Alors on va regarder une dernière fois, je vous propose un dernier jonglage avec un autre texte de Luc. C'est dans Luc au chapitre 24, c'est la fin, c'est après la résurrection de Jésus. Et le contexte est celui-là, c'est qu'on a là deux disciples qui rentrent, qui redescendent de Jérusalem après la mort de Jésus, complètement dépité, complètement en bas. Parce que avec les autres apôtres, avec les autres disciples, ils croyaient que c'était lui qui devait libérer Israël. Mais il vient de mourir sous leurs yeux. Et Jésus se met à marcher avec eux. Jésus ressuscité se met à marcher avec eux. La première chose que Jésus ressuscité leur dit pour leur prouver que c'était comme ça qu'il devait libérer le peuple, en mourant. Ce n'est pas de dire, Regardez, c'est moi, touchez-moi, waouh, super, je suis ressuscité, etc. Ben, c'est pas comme ça qu'il leur prouve que c'était la manière avec laquelle il devait sauver Israël. Mais regardez les versets 25 et suivants de Luc 24. Voici ce que Jésus leur dit pour leur montrer cela. Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans la gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. À la lumière de la résurrection, Jésus explique le sens de la croix en démontrant la résurrection et la victoire sur la mort et le péché à l'aide de toutes les Écritures. Quel est l'effet sur ces personnes? Alors on peut sauter un petit peu plus loin et on regarde au verset 31. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Mince, au moment où ils pouvaient le toucher, zut alors, il disparaît. Regardez ce qu'ils disent ensuite. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Pour sûr, c'est exactement ce que Jésus fait ici avec les apôtres qu'il s'est choisis. Non seulement il leur explique des choses du style, vous savez, telle parabole, quand on a été là, quand j'ai dit ça, c'est ça que ça voulait dire. C'est ça le sens. Mais en plus, il leur montre aussi ce qui guidait ses pas jusqu'à Jérusalem, où ils devaient être livrés. Et que tout ça, c'était rien d'autre que l'accomplissement de toutes les Écritures. Du style, là, Moïse qui dit, Élie qui dit, David, dans tel psaume, il dit ça, etc. C'était moi. C'est de moi dont il s'agissait. C'est tout cet Ancien Testament qui prévoyait et qui annonçait ma mort et ma résurrection. Alors le verset 2 est comme une charnière qui nous fait passer du ministère terrestre de Jésus, verset 1, au ministère terrestre de Jésus après la croix, on va dire comme ça, au verset 3. Mais l'ensemble du texte, alors cette fois 1 à 8, sur lequel il faut qu'on... Oui, alors je suis retourné dans Actes. Hein. L'ensemble de notre texte marque aussi le passage entre le ministère terrestre de Jésus et le ministère des apôtres. Dans la première partie, Jésus fait d'eux des témoins passifs et attentifs de la vérité. C'est un coup d'œil qu'on vient d'avoir là sur ce que c'est cette vérité et comment elle a été prouvée à la fois par sa mort et sa résurrection, mais aussi par l'ensemble de l'Ancien Testament qui prévoyait sa mort et sa résurrection. Mais assis au pied du divin maître, ressuscité devant eux, ils ont intérêt à bien écouter. Parce que ça va maintenant être à eux de jouer. C'est ce que leur dit Jésus au verset 8. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. C'est pour ça qu'on bascule là, dans la deuxième partie, à partir du verset 4, je pense, de témoins passifs à témoins actifs. Des témoins actifs qui sont saisis et envoyés par le Saint-Esprit pour proclamer le message. L'Évangile, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Dieu. Pour tous les hommes et de tous les temps. L'Évangile, ça ne se garde pas. L'Évangile, ça se transmet. Dieu l'a spécialement conçu pour qu'il soit entendu, cru, vécu et proclamé dans le monde. Je prends souvent l'exemple du labo au ciel. Vous savez qu'il y a un laboratoire au ciel? Dans ce laboratoire, Dieu a conçu l'Évangile, dont Jésus-Christ est le centre, son Fils. Et il a été fait spécialement pour être semé dans la terre, dans une terre tellement stérile, tellement opposée à Dieu, pour que cette graine miraculeuse par la puissance de Dieu et par l'Esprit pousse et porte du fruit. Ça, c'est le labo divin qui l'a produit. Ce n'est pas de notre sort. Et c'est ça qui met entre les mains des apôtres. C'est ce qui explique ce mouvement du texte à partir du verset 4. On passe de l'ordre de rester à Jérusalem
Vous avez remarqué ça lors de la lecture? Jusqu'à l'envoi des apôtres, verset 8, jusqu'aux extrémités de la terre. Le mouvement de l'évangile, c'est un mouvement centrifuge, du centre vers l'extérieur, jusqu'aux extrémités de la terre. Et celui qui va produire ce mouvement, qui va assurer ce mouvement, qui va perpétuer ce mouvement, c'est le Saint-Esprit. Sous nos yeux, dans ces 8 versets, une page se tourne, une autre étape de l'histoire voulue et conduite par Dieu commence. Au verset 5, on le lit ensemble, le verset 5, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Par l'eau de Jean-Baptiste, Dieu avait préparé les cœurs avant la venue de Jésus-Christ, en vue de l'arrivée de Jésus-Christ qui visite son peuple. Yahweh, le Dieu de l'Ancien Testament, qui dans son Fils visite son peuple, par l'eau, Jean-Baptiste a préparé. Dieu a préparé le cœur des personnes qui acceptaient ce baptême de repentance en vue de la venue de Jésus. Par l'Esprit Saint maintenant, Dieu ne va pas juste préparer les cœurs. Dieu va changer les cœurs pour qu'ils puissent recevoir son Fils et croire en lui. C'est pour cela qu'en quelques versets et en 40 jours, Jésus fait passer les apôtres de témoins passifs qui reçoivent la vérité à des témoins actifs qui proclament la vérité. Je le répète, c'est ça le mouvement de l'évangile. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Si aujourd'hui encore nous pouvons nous savoir encore concernés par le message de la croix, de la résurrection, de la victoire de Jésus-Christ, c'est pas par accident, c'est pas par auto-persuasion. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi, je suis pardonné. C'est pas ça que ça produit en nous. Quand ça se passe en nous, c'est plutôt un accomplissement en nous de ce que Dieu avait depuis toujours prévu pour nous. C'est cela que Dieu fait. Les souffrances et la mort de Jésus, par lequel le Dieu vivant offre le pardon et la réconciliation, sa résurrection qui prouve à la fois sa nature de fils de Dieu et sa victoire sur le péché et sur la mort, ne concerne pas seulement une petite bande de terre perdue au bout de la Méditerranée. Ça concerne le monde entier, ça nous concerne. Nous qui sommes pourtant des non-juifs. On voit bien ce mouvement, on voit bien aussi ça dans le contraste entre la question des apôtres au verset 6 et le recadrage de Jésus au verset 7 et 8. Regardez au verset 6, les apôtres disent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Et Jésus qui recadre, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors si un des apôtres avait déjà acheté un appartement à Jérusalem, c'était mal barré. Pensez ça. Ce qu'on voit là, ça n'a rien d'une épopée solitaire de quelques illuminés religieux en quête de sensations fortes ou de reconnaissance par leur père. C'est le résultat d'une action expresse de Dieu. C'est le résultat d'une action expresse de Dieu dans toute la force de son être. Regardez le verset 4. Le Fils annonce la venue de l'Esprit promis par le Père. Ça n'a rien d'une initiative personnelle. C'est un mandat divin par Dieu dans toute la force de son être. Les amis, nouvelle raison de ne pas hésiter un seul instant sur la vérité de l'Évangile. Nouvelle raison de ne pas se limiter à notre propre confiance en nous-mêmes en se disant « je ne suis pas assez confiant en moi-même, donc je ne vais pas croire ». Academia, tout ça. Non, on voit bien que la confiance vient de l'extérieur. La confiance vient du Dieu vivant et vrai, en Jésus-Christ.
Elle a été déposée dans les cœurs et sur la bouche et sous la plume de ces hommes, du verset 2, les apôtres que le Seigneur avait choisis et envoyés par le Saint-Esprit. Alors avant qu'on vérifie ça dans d'autres textes de la Bible, dans les petits groupes, je me suis dit que ce qu'on a sous les yeux là, et qui est un peu le motif de tout le développement du livre des Actes des Apôtres, c'est un peu comme une passation de témoins. Et si on reprend l'image de la course de relais, voilà ce qu'on pourrait dire. Bon, il va y avoir une course, c'est ce que Jésus leur dit. Il va y avoir une course qui va être longue et difficile, mais Jésus doit être proclamé jusqu'aux extrémités du monde et de l'histoire. C'est comme ça que le royaume de Dieu va progresser, c'est ça la longueur du tracé. C'est pas 400 mètres ou 4 fois 400 mètres, c'est Dieu qui a déterminé la longueur. Mais il faut que le Fils de Dieu ressuscité, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, pour notre justice, soit connu jusqu'aux extrémités de l'histoire et du monde. Deuxième chose, on est sûr du bien fondé de la course. On est sûr qu'on n'est pas dans une course du si on court, on se dit, ça m'a éclaté, je continue à courir. On est sûr du bien fondé de la course, puisque c'est Dieu, le Fils unique, c'est le divin maître qui l'a initié, qui nous a dit à envoyer. Ensuite, on pourrait dire quelques petites choses sur le contenu du témoignage. Et on pourrait faire un jeu de mots entre témoignage, vous serez mes témoins, et puis le témoin, en anglais on dit baton, en français on dit témoin, de baton, on dit. Témoin, qu'on se passe dans une course de relais, il a un diamètre particulier, il a une longueur particulière, il a un poids particulier, une matière particulière, c'est ça les règles. Si c'est trop léger, c'est de la triche. S'il est trop lourd, tant pis pour l'équipe qui... excusez-moi. Ouais. Là, on a clairement dans ce texte la définition du calibre du témoin qu'on se passe. Et ce témoin qu'on se passe, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. C'est la vérité reçue et transmise. L'Évangile est calibré. On n'a pas besoin de réinventer la poudre. On n'a pas besoin de se dire, bon, ça on enlève, ça on rajoute, etc. C'est fait. C'est dans le laboratoire divin, le témoin a été conçu pour qu'il soit transmis en l'état. Et c'est ça qui sauve. En d'autres termes, Jésus-Christ mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, c'est l'Évangile. Et c'est comme ça qu'il faut le transmettre. C'est en entendant et en croyant en l'Évangile que des hommes et des femmes seront sauvés. S'ils reçoivent un autre témoin, ils croiront en un truc, c'est sûr, mais ce ne sera pas en l'Évangile qui sauve. Et enfin, le témoin va rester le même. Même si ça, vous savez qu'après le temps, si c'est des siècles et des siècles, peut-être que de l'alu, ça serait au bout d'un moment plus léger. Bon, il y en a certains qui sont étudiants en physique, peut-être c'est possible, je ne sais pas. Je ne suis pas scientifique. Mais on a la certitude que ce témoin qui passera de main en main au travers des siècles, la course est longue, ne sera pas altéré. La matière est sûre. Et ce ne sera pas altéré. Pourquoi ce ne sera pas altéré? Pourquoi ce ne sera pas détruit? Ni par le temps, ni par les mauvaises dispositions ou les limites des hommes, ni par les langues ou les cultures des extrémités du monde, mais parce que c'est le Saint-Esprit qui va le garantir. Ah, c'est ça, les données de la course. Et pour l'instant, on va s'arrêter là. Avant qu'on se dispatche dans les groupes, je vais prier, répondre au Seigneur, ce qu'il nous a dit dans ces 8 versets, et puis on va peut-être entendre les règles du jeu concernant les petits groupes. Je prie. Seigneur, nous savons que lorsque nous recevons la confiance à mettre en toi et par nous-mêmes, non seulement nous ne sommes pas en échec et mat, mais en plus, nous savons que nous gagnerons. Nous gagnerons la vie éternelle. Nous te remercions pour cette grande confiance que tu déposes en nous dans ce texte. Nous te remercions pour ton amour pour nous, parce qu'un jour tu as déposé, oh là là, ce soir peut-être, pour la première fois, tu déposes dans notre main ce témoin. Qu'est-ce qu'on va en faire? On doit le recevoir et le proclamer. Nous voulons te remercier parce que jusqu'au bout, ce témoin restera tel.
Et jusqu'au bout, ce témoin est fait pour sauver celles et ceux qui le reçoivent et qui croient en Jésus-Christ, ton Fils. Nous voulons te remercier pour cela et te demander de nous aider à en vivre au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.
Amen.
Un mot rapidement sur les... Il y aura